Bonjour à tous. J'étais préoccupé par la congestion dont j'ai souffert ces 2 derniers jours, et certains d'entre vous comprendront la référence que je vais faire. Les gens me demandaient comment je me sentais et je leur ai répondu que je me sentais très bien. Je me sens énergique. C'est juste cette congestion. Je crains qu'elle ne me fasse ressembler à Wolfman Jack. Certains d'entre vous ne savent pas qui c'est. C'était un célèbre disque jockey à la radio dans les années 70, et on l'appelait l'homme-loup, et je craignais de ressembler à lui, mais je pense que je m'en sors plutôt bien en ce moment. Permettez-moi de vous poser une question. Quel type de conscience avez-vous? Pas la conscience, ces deux termes se ressemblent beaucoup, mais ils ont des significations très différentes. La conscience est notre capacité cognitive à être conscient, à savoir que nous existons, à interagir avec notre environnement. Ma question portait sur le mot conscience, qui s'écrit C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. C'est la conscience ou la connaissance. C'est ce que cela signifie. C'est la caractéristique unique de l'esprit humain que beaucoup décrivent comme cette boussole morale interne que chacun possède, ce guide qui nous aide à déterminer le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je reviens donc à la question, quel type de conscience avez-vous? C'est une question facile, une question humaine, n'est-ce pas? C'est assez simple. Permettez-moi de poser une autre question qui ne sera peut-être pas aussi facile cette fois-ci. Dans quel état se trouve votre conscience? Ou encore, je pourrais poser la question de la manière suivante. Exercez-vous ou formez-vous correctement votre conscience? Telles sont les questions que je souhaite aborder aujourd'hui. Dieu a donné un cerveau à presque toutes les créatures vivantes de la planète. Il y a quelques exceptions, notamment dans l'océan. Les méduses, les palourdes, les oursins, les étoiles de mer n'ont pas de cerveau, mais il n'y a pas d'exception en ce qui nous concerne. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie et dont vous vous dites qu'il n'a peut-être pas de cerveau. Mais je vous garantis que chaque être humain a un cerveau et qu'il est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Contrairement aux animaux, notre esprit est doté d'un mécanisme extraordinairement puissant qui nous permet de percevoir le bien et le mal, et non seulement de le percevoir, mais aussi d'agir ou de parler en fonction de ce que nous estimons être le bien ou le mal. Aujourd'hui, nous allons donc examiner quelques faits intéressants sur la conscience humaine et nous allons peut-être révéler quel type de conscience nous avons réellement. Y a-t-il une distinction à faire? Enfin, nous verrons comment renforcer et former correctement notre conscience. Nous avons donc pas mal de choses à couvrir. Commençons donc par le chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 2 de l'Épître aux Romains présente quelques faits intéressants sur la conscience humaine. Il s'agit d'un bon texte fondamental, qui nous renseigne sur l'ensemble de l'humanité. 11e verset, car il n'y a pas d'acception de personne en Dieu. Le contexte est important ici. Paul fait une distinction entre les Juifs et les païens. Mais il y a des choses dans la Bible, des déclarations dans la Bible, des principes dans la Bible, comme nous le savons, qui ne font aucune distinction. Alors quand elle fait cette déclaration, c'est toute l'humanité, que vous soyez juif ou païen, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des principes dans la Bible qui s'appliquent à tout le monde. Nous sommes tous la création de Dieu, bien sûr. Verset 12. Tous ceux qui ont péché. Il se concentre maintenant sur, encore une fois, la distinction entre les juifs et les gentils. Il se concentre sur les gentils. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Le reste du verset 12 et tout le verset 13, l'apôtre Paul fait une déclaration au sujet de ses propres parents, les Juifs, Mais il revient ensuite aux païens au verset 14. En effet, lorsque des païens qui n'ont pas la loi font par nature des choses contenues dans la loi, ces choses sont une loi pour eux-mêmes ou pour eux. C'est une déclaration intéressante. Au verset 15, il est encore question des païens. Ils montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Cela m'a sauté aux yeux. Leur conscience en témoigne, leur pensée. Je paraphrase. Les accusant ou les excusant. En d'autres termes, leur dire qu'ils ont tort ou leur confirmer qu'ils ont raison. Voici le premier fait, mes frères, concernant la conscience humaine. Dieu a donné à chaque être humain une conscience, qui est un mécanisme permettant de sentir sa loi. La sentir, c'est important parce que je pense qu'il serait trop simple de la distiller en disant simplement bien ou mal. Lorsque les gens dans le monde font référence à la conscience humaine, ils veulent dire, non, c'est notre guide qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, mes frères, permettez-moi de le dire clairement. Ce qui est juste et sera toujours la voie de Dieu, un point c'est tout. Tout ce qui est contraire à la voie de Dieu est mauvais. C'est pourquoi je dis que la conscience humaine n'est pas simplement un mécanisme permettant de déterminer le bien et le mal. C'est un mécanisme de perception du mode de vie de Dieu, qui comprend ses commandements, ses jugements, ses statuts, ses lois. Mes parents n'ont jamais été pratiquants. Mon père n'était pas, surtout dans mon enfance, un homme religieux, mais je peux dire qu'il avait le sens du bien et du mal. Je suis sûr que vous pouvez penser à des personnes qui vous ont donné une orientation dans votre vie. Elles voulaient vous transmettre leur sens du bien et du mal, et je suis sûr que vous pouvez entendre. Aujourd'hui encore, dans certaines situations, je peux entendre certaines des instructions que mon père ou ma mère m'ont données quand j'étais jeune. Avec le recul, je me dis que ces instructions correspondent à des principes que je peux trouver dans la Bible, et je m'appuie donc encore sur certaines des choses que mes parents m'ont apprises, m'enseignent. Je suis sûr que vous pouvez penser à des personnes dans votre vie qui, dans certaines situations, vous rappellent leur voix et quelque chose qu'elles vous ont dit pour vous guider. C'est le premier fait. Deuxièmement, en lisant l'Épître aux Romains, l'homme peut, par nature, faire. Pas seulement le sens. Faire par nature les choses contenues dans la loi. Cette expression, par nature, signifie production naturelle ou descendance linéaire. Or, si la race humaine ne s'est pas anéantie, c'est grâce à la conscience que Dieu nous a donnée. Sans conscience, nous serions plus dangereux que des animaux. Pensez-y. Des missiles nucléaires dans les mains de dirigeants qui, vous l'espérez, ont un certain niveau de conscience qui les empêcherait d'anéantir complètement cette planète. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu des membres de leur famille qui ne faisaient pas partie d'une église, dont la conduite, non seulement ce qu'ils pensaient, mais aussi comment ils agissaient, comment ils parlaient, reflétaient leurs croyances et leurs principes. Regardez la Constitution américaine, par exemple. Si vous regardez la Constitution américaine, de nombreuses lois humaines sont tirées des commandements de Dieu, de ses statuts et de ses jugements. C'est le deuxième fait. Troisièmement, les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, peuvent ressentir et faire des choses contenues dans la loi de Dieu parce que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Il est important de faire une distinction. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est écrite sur leur cœur, mais l'œuvre de la loi. Pensez-y. Je connais des gens qui pensent que les 10 commandements ont été cloués sur la croix et ont disparu. J'ai noué des relations et des amitiés en Asie du Sud. Ils n'ont que peu ou pas d'idée de qui est Dieu et ne savent rien des 10 commandements, mais ils croient de tout cœur qu'il est convenable, juste et bon d'honorer ses parents. Il croit fermement qu'il est mal de tuer, de voler, de mentir, de tricher. Ce sont des gens avec qui je peux interagir, mais ils n'ont aucune idée de qui est Dieu et ils ne comprennent pas grand-chose, voire rien du tout, à ces 10 commandements. C'est parce qu'au cours des 6000 dernières années, Dieu a donné à l'humanité une chance de vivre en paix les uns avec les autres, parce qu'il a donné l'œuvre de la loi dans leur cœur. Mes parents transmettent à leurs enfants ce qu'ils pensent être le bien et le mal. En tant que parent, j'essaie de transmettre à mes enfants ce que je crois être le bien et le mal. J'ai maintenant le plus grand avantage. Je suis dans la véritable Église de Dieu. C'est le troisième fait. Fait numéro 4. Dieu n'a pas conçu la conscience humaine pour qu'elle conserve des quantités excessives de culpabilité pendant des périodes prolongées. C'est probablement le fait le plus important avant de passer au sujet suivant. La science a prouvé qu'il se passe quelque chose sur le plan physiologique lorsque nous nous débattons avec ce qui est bien ou mal dans notre vie. Si nous prenons la bonne décision, si nous nous conduisons de la bonne manière, si nous parlons à quelqu'un de manière appropriée. Je sais que vous avez probablement tous été confrontés à ce problème et que vous revivez encore et encore les moments où vous avez commis une erreur ou pensez avoir commis une erreur, ou vous pensez avoir tort. Les scientifiques ont également prouvé que la culpabilité peut entraîner des répercussions physiques, émotionnelles et sociales négatives sur les personnes. Des études ont montré que lorsque nous portons un sentiment de culpabilité pendant de longues périodes, n'importe qui peut développer des problèmes de sommeil, des problèmes physiques réels tels que des problèmes d'estomac, des troubles digestifs, des tensions musculaires. Il est prouvé que les gens portent une culpabilité excessive pendant de longues périodes, parce que nous ne sommes pas conçus pour cela. Dieu n'a pas conçu nos esprits, nos consciences, pour porter des charges extraordinaires de culpabilité pendant des périodes prolongées. Les personnes qui se sentent coupables pendant de longues périodes peuvent être émotionnellement à fleur de peau en permanence. Elles peuvent avoir des problèmes d'estime de soi dus à des problèmes dont elles ont souffert, peut-être dans leur enfance ou leur adolescence, et elles se blâment elles-mêmes et n'arrivent pas à s'en remettre pendant de longues périodes, d'où leurs problèmes d'estime de soi. Les personnes qui se sentent coupables trop longtemps sont sur la défensive. Elles sont souvent irritables, déprimées et cela peut affecter leurs relations avec les autres. Elles ne peuvent pas entretenir des relations saines parce qu'elles se sentent constamment coupables. J'ai vu cela détruire la vie des gens. Mais c'est ce que Christ a enseigné en opposition aux religions et au sujet de la conscience. Tournons-nous vers Matthieu 11. Matthieu chapitre 11 et verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes et le repos de vos vies. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Christ vient de nous donner cette merveilleuse image pour souligner un point important concernant la conscience humaine, parce qu'il ne parle pas d'un joug physique que l'on met sur nous et que l'on porte avec lui, et nous nous promenons avec ce joug. Vous avez vu des bœufs avec un joug, deux bœufs attachés ensemble avec un joug. Il ne parle pas de cela. Et il ne parle pas d'un lourd chariot ou d'une charrue que nous devons tirer. Quand tu auras fini une longue journée à porter ce joug et à travailler dur, viens te joindre à moi sous mon joug et faisons des choses plus physiques. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Je tiens à souligner que Dieu veut que nos consciences fonctionnent comme il se doit. Comme nous l'avons lu dans Romains, il veut que notre conscience nous accuse effectivement lorsque nous désobéissons à Dieu. Il veut que notre conscience nous excuse efficacement et nous donne ce sentiment de paix que nous avons fait la bonne chose au bon moment. Ce dont Christ parle, c'est d'une vie attachée à lui et libérée d'une culpabilité excessive. C'est de cela qu'il parle, Parce que, frère, nous ne sommes pas des bêtes de somme. La conscience humaine n'a pas été conçue pour porter ces lourdes charges de culpabilité pendant de longues périodes. Nous le savons instinctivement et nous ferons des choses extraordinaires pour nous décharger de cette culpabilité. Nous y reviendrons dans un instant. Mais encore une fois, je veux répéter que Dieu veut que votre conscience, ma conscience, nous accuse et nous excuse, mais il veut que nous soyons toujours, toujours cette image du mot, en train d'aller de l'avant. Avez-vous déjà vu deux bœufs attachés l'un à l'autre dans un joug se déplacer vers l'arrière? Je ne l'ai jamais vu. Si c'est le cas, faites-le moi voir. Mais je peux vous dire que Christ ne recule jamais. Et si vous êtes sous son joug, vous avancez toujours. Toujours. C'est ainsi que nous devrions aborder ce sujet, notre conscience, et réfléchir à l'état dans lequel elle se trouve. Voilà donc quatre autres faits importants, je pense, très importants. Mais examinons le type de conscience que vous avez réellement. Vous n'y avez peut-être jamais pensé auparavant. Dans le chapitre 23 des Actes des Apôtres, quel type de conscience avons-nous? Bien sûr, une conscience humaine. Acte 23. Et ce que nous allons trouver, si vous le lisez, lisez-le vous-même plus tard, vous verrez que l'apôtre Paul était à Jérusalem et qu'il se défendait devant le conseil juif après avoir été emprisonné. Mais voici sa déclaration d'ouverture à cette élite religieuse puissante et éminente, debout devant les chefs des dirigeants. Il est dit ici, au verset 1, et c'est Dieu qui a inspiré la rédaction de ce passage, Paul les regardait attentivement. En d'autres termes, il les regardait droit dans les yeux, il ne regardait pas vers le bas, il ne regardait pas à gauche ou à droite, il les regardait droit dans les yeux, il ne les regardait pas d'un air penaud, et il disait, « Hommes et frères, j'ai vécu en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, et nous allons le prouver avec quelques versets bibliques supplémentaires, nous avons une bonne conscience. Nous avons une bonne conscience en tant que chrétiens. Cela nous rend tout à fait uniques. Et ce que je trouve fascinant dans cette déclaration, alors qu'il se tenait hardiment là, regardant ses dirigeants dans les yeux, c'est le fait qu'il se tenait devant probablement certaines des mêmes personnes qui lui avaient précédemment donné des lettres pour persécuter la façon dont il se tenait ce jour-là devant le Sanhédrin pour persécuter l'Église et les tuer. Et j'imagine certains d'entre eux se dire, « Est-ce que c'est Paul ? Vient-il de dire qu'il a une bonne conscience ? Vous vous moquez de moi ? Ne te souviens-tu pas de ta vie, tout à l'heure ? Lorsque nous t'avons donné la carte, la lettre pour que tu persécutes et que tu assassines de la même manière que tu te tiens maintenant devant nous, comment pouvez-vous dire en toute bonne conscience? Voici ce que l'apôtre Paul savait et qu'il ne savait pas. Hébreux, chapitre 10. Et c'est ce que nous devions savoir. C'est ce que j'avais besoin de savoir. Comment a-t-il pu dire cela? Comment a-t-il pu dire qu'il avait vécu en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour? Verset 19. Ayant donc, frères, la hardiesse d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, sa vie corporelle, et lui sacrifiant sa vie pour nous. Verset 21. Ayant un souverain sacrificateur pour la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, dans une pleine assurance de foi, ayant le cœur purifié. Cette phrase est un peu étrange si vous la recherchez. Elle signifie en fait que nos cœurs ont été purifiés par l'aspersion. C'est ce que cette phrase signifie pour une mauvaise conscience. Le mot « mauvaise » signifie « coupable ». Il peut aussi signifier blessant. Dans certains versets, il signifie aussi le diable ou les pécheurs, c'est-à-dire mauvais ou nuisible. Il peut aussi signifier obscène, malveillant, méchant. C'est un grand mot. Nos cœurs ont été purifiés d'une mauvaise conscience, ma conscience était une mauvaise conscience, nuisible, lubrique, malveillante, méchante. Et nos corps ont été lavés avec de l'eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi, sans faiblir. Lorsque je repense à ma vocation dans ma vie antérieure, et j'espère que vous en faites autant, pour avoir une bonne conscience, je devais d'abord être purifié d'une mauvaise conscience. Pour que vous ayez une bonne conscience et que vous soyez assis ici, vous avez d'abord dû être purifié d'une mauvaise conscience. Nous n'avons plus de mauvaise conscience, mes frères, c'est probablement l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir en tant qu'être humain. Aucun d'entre nous n'aurait jamais pu faire cette déclaration ou celle que Paul a faite devant le Sanhédrin. Sans le sang du Christ, nous n'aurions jamais pu être purifiés d'une mauvaise conscience. Ce n'est que la moitié de la pièce ou de l'histoire. 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, nous avons été purifiés d'une conscience mauvaise, nuisible, lubrique, malveillante, méchante, et maintenant quoi? Verset 18, car Christ aussi a souffert pour les péchés, le juste pour les injustes. C'est-à-dire nous, les injustes. Si vous avez des doutes, continuez à lire. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui avaient désobéi autrefois, alors que les longues souffrances de Dieu s'étaient prolongées au jour de Noé. Nous avons récemment entendu un message sur la vie de Noé et sur les nombreux exemples que nous pouvons tirer de sa vie. Il est dit ici, pendant qu'on préparait l'arche, il n'y avait que 8 personnes sauvées par l'eau. Ces 8 personnes sauvées par l'eau sont la figure du baptême, qui est la déclaration suivante de l'apôtre Pierre, qui nous sauve. Cela nous sauve maintenant. Le baptême ne nous sauve en ne nous débarrassant pas de la chair sale. En d'autres termes, ce n'est pas un bain que nous prenons. Nous ne nettoyons pas la saleté de notre corps. Mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Saviez-vous que le mot « réponse » ne signifie pas « réponse » Combien savaient que ce mot ne signifiait pas « réponse » Combien pensaient qu'il signifiait « réponse » Parce que c'est ce qu'il dit. Il est intéressant de noter que le mot anglais « answer » se trouve 29 fois, je crois, dans le Nouveau Testament. Ce mot anglais est une traduction de 4, je pense 3 ou 4 mots grecs différents. Ce mot grec n'est utilisé qu'une seule fois ici. Il ne signifie pas réponse. Frères et sœurs, il signifie une enquête, une requête ou une demande. Pierre révèle qu'au baptême, nous avons demandé, nous demandons une bonne conscience envers Dieu. Quelle sorte de conscience avez-vous? Dieu nous en a donné une bonne et nous l'avons reçue au baptême, mais toute conscience, qu'elle ait été mauvaise dans le passé ou bonne maintenant parce que nous avons été baptisés, que nous l'avons demandé à Dieu et qu'il nous l'a donné, toute conscience est vulnérable. Genèse, chapitre 3. Même nos bonnes consciences sont vulnérables à certaines choses. Genèse chapitre 3, il n'y a personne sur cette planète qui déteste les humains plus que Satan. Il déteste tout ce qui vous concerne. Il déteste tout ce qui est en moi. Il déteste tout ce qui nous concerne. Que vous vouliez le croire ou non, il est difficile d'imaginer autant de haine quand vous êtes dans le mode de vie de Dieu, mais il est. Et l'un des aspects de l'existence humaine qu'il déteste est notre conscience. Pourquoi? Parce qu'elle interfère avec son plan. Elle se met en travers de son chemin. Il protégera une bonne conscience, il nous protégera du mensonge, du vol, du meurtre, de l'adultère, de la fornication. Nous allons voir beaucoup plus que cela. Mais Satan connaît non seulement le pouvoir qu'a notre conscience de nous protéger, mais il connaît aussi ses vulnérabilités. Genèse, chapitre 3, vous devriez y être, et verset 1. Or, le serpent était plus subtil, ce qui signifie rusé et astucieux, qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et cela, il s'agit de Satan. Dites à la femme, Dieu n'a-t-il pas dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin. C'est vrai. C'est bien. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez pas, n'y touchez pas, ou nous mourrons. En d'autres termes, il y a un mal et ce serait mauvais. Dieu a donc voulu, dès le début, que notre conscience soit prête. C'est un point très important, ne pas être constamment actif. Dieu veut que notre conscience soit en arrière-plan, prête à agir si nécessaire. C'est ce que l'on appelle une veille permanente. Par exemple, lorsqu'il s'agit des commandements de Dieu, de ses doctrines de base, notre conscience n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Une fois que nous sommes convaincus, une fois que nous avons prouvé que certaines doctrines sont des lois de Dieu, notre conscience n'a pas à s'en faire. Prenons l'exemple du sabbat, qui a lieu le septième jour. De quoi ma conscience a-t-elle besoin pour comprendre cela? Je sais que ce n'est pas le sixième jour, je sais que ce n'est pas le cinquième jour. Je sais que ce n'est pas le huitième jour. Il n'y a pas de huitième jour. Ce n'est pas le quatrième jour. C'est donc facile. Pas besoin de ma conscience. Ne pas manger de viande impure, de porc, de crustacés, facile. Pas besoin de l'intervention de ma conscience. Il suffit de ne pas en manger. Ma conscience est donc en veilleuse. J'imagine qu'il en va de même pour la vôtre. Nous devons garder notre dîme. Nous devons donner la dîme de ce que nous gagnons. Nous devons garder notre deuxième dîme pour aller au festin où Dieu a placé son nom. Des instructions simples et claires. Pas besoin de notre conscience à cet égard. Mais qu'en est-il des zones d'ombre? Qu'en est-il de la question de savoir si je fais ce qu'il faut aujourd'hui, le jour du sabbat? Devrais-je faire ceci le jour du sabbat? Dois-je manger telle quantité de nourriture ou tel type de nourriture aussi souvent, par exemple de la malbouffe? Je sais que je dois garder ma dîme, mais devrais-je donner un peu plus parce que Dieu m'a béni dans mon travail, dans mes revenus, pas seulement pendant les jours saints, mais tout au long de l'année? Dois-je donner un peu plus que ma dîme? Et combien dois-je donner? Et lorsque j'en arrive au jour saint, quelle est la part qui reflète véritablement et sincèrement la façon dont Dieu m'a béni? J'ai maintenant besoin de ma conscience. N'êtes-vous pas d'accord? C'est là que la conscience peut nous aider. Une bonne conscience bien conditionnée nécessite, mes frères, un programme d'exercice sain. Continuons d'abord. Nous y reviendrons dans un instant. Verset 4. Le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras point. » Verset 6. Sautez à 6. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et propre à rendre sage. C'est ce que j'appelle, par analogie avec la boxe, la technique de combat à trois coups de Satan. Combien d'entre vous ont déjà vu Mike Tyson à son apogée, le champion des poids lourds? Je peux encore voir sa technique. Il était gaucher. C'était un gaucher, et il donnait un coup de poing du droit à cet individu. Il entrait et frappait. Lorsqu'il essayait de le protéger, il savait ce qui les attendait, parce qu'il écrasait ses adversaires en moins d'une minute, en 60 secondes. Puis il arrivait avec ses crochets sur le côté. Il essayait de les frapper dans la cage thoracique, de leur faire lâcher leurs coudes, ou il les frappait sur le côté de la tête, et il protégeait leurs tempes. Cela les exposait au troisième coup de poing, le coup de poing supérieur. Que ce soit de la gauche ou de la droite, il envoyait littéralement les gens à travers la toile et les mettait KO en quelques secondes. C'est brutal. Satan applique exactement le même genre de technique contre la conscience humaine. Il essaie de l'assommer. Le premier coup de poing, nous l'appellerons le coup d'estoc, prenez-en note. Ce coup vise à nous faire changer notre compréhension des conséquences de la désobéissance aux instructions de Dieu. Tu ne mourras pas. Il y a un coup de poing. Si je peux me convaincre que ce que je fais n'aura pas vraiment de conséquences, alors ma conscience est engourdie, si l'on peut dire. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui prônent la bonté de Dieu. La vie éternelle, tous les chiens vont au paradis. Un petit clin d'œil à un film dont certains d'entre vous ne savaient peut-être même pas à quoi je faisais référence. Pas de conséquences, pas de dose de sévérité. Tout le monde va au paradis. Le faux christianisme, c'est l'ironie du sort. Il tombe encore littéralement dans le plus vieux, littéralement le plus vieux mensonge du livre, « Tu ne mourras pas sûrement ». C'est le plus vieux mensonge du livre. Si vous pouvez l'éliminer, c'est le coup de grâce. S'il n'y a pas de conséquences de la part de Dieu, je vais vivre ma vie comme je l'entends, la conscience est claire. C'est le premier coup de poing. Le deuxième coup, c'est l'hameçon. Maintenant qu'il nous a relâchés avec cela, il va nous frapper avec un crochet. Maintenant, il va nous frapper avec un crochet. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, « Nous n'avons pas besoin d'y aller », appelle cela aimer les choses qui sont dans le monde. Ici, il est dit, « Bon pour la nourriture, la convoitise de la chair. Agréable à regarder, la convoitise des yeux et le désir de se rendre sage. » Dans Jean, il est question de l'orgueil de la vie. Frères et sœurs, la convoitise de la chair, ce sont nos besoins physiques comme la nourriture, la boisson, et même le désir de procréer, d'avoir des relations sexuelles dans les limites du mariage. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais Satan veut que ces besoins physiques naturels nous dominent au lieu que nous les contrôlions. Si nous n'utilisons pas le programme d'entraînement qui conditionnera notre conscience pour nous aider à garder le contrôle de nos besoins physiques, nous échouerons. Notre conscience doit être entraînée à veiller sur nous. La seconde est la convoitise des yeux, comme les besoins physiques. Il n'y a rien de mal à désirer des vêtements décents, un endroit agréable à vivre, une bonne voiture. Rien de tout cela n'est intrinsèquement mauvais, tout comme les besoins physiques. Désirer la dernière mode, ou des choses risquées ou indécentes, ou des maisons opulentes, ou des voitures luxueuses. Oh, regardez, le dernier téléphone, c'est 900 dollars. C'est cela. D'ailleurs, mon téléphone a presque un an et il n'est pas plus gros que cela. Il n'est pas aussi grand. Et il n'a pas ce troisième objectif sur l'appareil photo à l'arrière. 900 dollars, quelle affaire! C'est le genre de choses dans lesquelles nous pouvons tomber, mes frères. C'est la convoitise des yeux. Nous pouvons convoiter ce dont nous n'avons pas besoin. Lorsque nous le faisons, cela trouble notre conscience juste assez longtemps pour qu'elle nous fasse défaut et ne nous empêche pas de prendre un moment et de dire « Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu m'a donné. Je suis satisfait de ce que j'ai déjà. Pourquoi aurais-je besoin de cela? Je n'en ai pas besoin. Ces 900 dollars peuvent être dépensés ailleurs, dans quelque chose de mieux. Si nous ne renforçons pas notre condition, si nous ne renforçons pas notre conscience contre ce genre de tentation, nous échouerons. Le pire, le troisième, c'est la fierté de vivre. La poursuite de l'accomplissement personnel. Vous voulez fonder une famille, vous voulez faire des études, vous voulez faire carrière, vous voulez accroître votre connaissance de la Bible, tout cela est intrinsèquement bon. Ce sont de bonnes choses à désirer, mais Satan veut que cela produise de la suffisance, de la vanité, voire de l'arrogance, de l'autosatisfaction, le tout alimenté par l'orgueil. C'est ce qui alimente tout cela et ce n'est qu'une très courte liste de ce que l'orgueil de la vie produit. Et je pense que c'est l'une des choses les plus laides chez une personne. C'est les quand je le vois en moi, si je suis franc et honnête avec vous. Je n'aime pas cela. Et cette fierté de la vie, quand je poursuis quelque chose et que j'y parviens, je peux sentir qu'il y a de la fierté qui se construit, qui alimente ma façon de penser, l'attitude que j'ai à l'égard des autres. Ève a été tentée de devenir égocentrique, dépendante d'elle-même et, pire encore, elle a décidé d'être un dieu selon ses propres termes, à son propre rythme. Nous pouvons trop facilement tomber dans ces travers plusieurs fois par jour. Il ne s'agit pas d'un événement unique, d'un événement majeur. Chaque jour, tout au long de la journée, nous pouvons tomber dans l'orgueil de la vie. Nous savons ce qu'il y a de mieux. Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons comment il faut le faire, nous savons quand il faut le faire, nous savons où il faut le faire et ce n'est pas mal d'avoir une bonne idée ou la meilleure idée, mais le problème est qu'elle n'est pas acceptée ou qu'elle ne se déroule pas exactement comme vous le voulez. Qu'est-ce que cela produit comme réaction? Qu'est-ce que cela nous fait ressentir? Mais il y a une variété, il y a une variété d'exercices de résistance qui aident à construire la force de notre conscience contre l'orgueil pour nous avertir. C'est ainsi que les lumières d'avertissement s'allument. Frères et sœurs, si nous montons sur le ring un jour donné sans renforcer notre conscience, le premier et le deuxième coup de poing de Satan, qui est de changer notre compréhension des conséquences, qu'il n'y en a pas, ou qu'il n'y en aura pas dans cette décision ou cette chose que je vais faire, le crochet droite ou gauche, qui est d'aimer les choses du monde, ces deux-là nous exposeront à ce que j'ai décrit plus tôt, ce coup de poing d'assommoir. Poursuivons ici au verset 6. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et Dieu dit, au verset 22, c'est cela. Et Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Le coup qui envoie notre conscience au tapis, pour au moins un décompte de 10, et peut-être encore complet, c'est lorsque nous commençons à décider ce qui est bien et ce qui est mal, et non pas Dieu. J'aimerais vous encourager à vous demander pourquoi vous existez en tant que publication de l'Église. Je crois que c'est à la page 14. Pourquoi existez-vous? Monsieur Peck a écrit, c'est Dieu, et non les hommes, qui déterminent le bien et le mal. Les hommes peuvent décider s'ils feront le bien ou le mal, mais jamais ce qui est bien ou mal. Il poursuit en disant, Satan a convaincu Adam qu'il devait s'arroger le pouvoir de prendre cette décision, pour lui-même. Voilà où en est la société aujourd'hui, mes frères. La septième époque, qu'on l'admette ou non, le peuple juge, gouverne et décide, même de la doctrine. Et j'insisterai sur ce point. Le peuple juge, gouverne et décide de ce qui est bien ou mal. C'est le coup de grâce. Lorsque vous commencez à décider ce qui est bien et mal dans votre vie, votre conscience est presque mais certainement assommée, ou ce qui se passe, c'est qu'elle est complètement reconnectée à un autre ensemble de normes ou de règles qui peuvent être très éloignées de Dieu dans la voie de Dieu. Nous pourrions dire que ces personnes souffrent d'une conscience souillée ou brûlée. Vous pouvez les écrire ici. Ils vous diront autre chose. Cela n'a pas d'importance. Il est difficile de rationaliser avec un individu qui a une conscience souillée ou brûlée. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Une fois qu'ils en sont là, peu importe que vous leur indiquiez titre 1, allez-y et notez-le. L'apôtre Paul décrit les symptômes d'une conscience souillée. 3. Un indiscipliné. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie insubordonné à l'autorité, symptôme d'une conscience souillée, bavard à la veine, ce qu'ils disent n'a aucun sens. C'est confus. Vous dites, vous allez, cela n'a pas de sens ce qu'ils disent, et souvent il s'agit de moi, 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 moi. Veine. Symptôme d'une conscience souillée, de trompeur, et le pire, c'est qu'il n'essaie pas seulement de nous tromper, toi ou moi. Nous pouvons parfois, si nous tombons dans ce piège, nous tromper nous-mêmes et nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe, et nous l'agitons en plein visage et ils ne peuvent pas le sentir. Cela aurait encore moins d'importance si l'on essayait de montrer du doigt une personne dont la conscience est brûlée. C'est la deuxième condition la plus grave. C'est dans 1 Timothée 4. Il faut le noter et le consulter. Voici les baguettes. Quand vous arrivez à ce stade, il est dit, détournez-vous complètement de la foi. Écoutez les esprits séducteurs. Ils commencent à suivre. S'ils ont grandi dans l'Église, ils commencent à suivre les doctrines des démons. S'ils étaient autrefois dans le monde, ils y reviennent. Nous avons entendu de nombreuses histoires sur l'apostasie dans la Worldwide Church of God, sur ce qu'ils ont fait immédiatement. Ils racontent des mensonges à notre sujet dans l'hypocrisie. Ils nous mentent. Ce sont tous des symptômes d'une conscience brûlée. Si vous regardez les anciens membres, ils reviennent en arrière et célèbrent des fêtes créées par l'homme qui sont des abominations pour Dieu. Ce sont d'anciens membres, permettez-moi de le dire ainsi, d'anciens membres qui soutiennent le droit d'une femme à tuer un bébé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'utérus, c'est dire à quel point ils s'éloignent, à quel point la situation devient sombre pour eux. C'est une mise en garde pour nous, car cela s'est produit pendant des millénaires pour de nombreux anciens membres. Cela pourrait suggérer que nous aussi, nous pourrions être vulnérables. Après tout, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Alors, commençons à former nos consciences. Quel est le bon programme d'entraînement pour votre conscience afin qu'elle soit en parfaite condition pour vous aider dans votre marche chrétienne? Voici ce que nous pouvons faire pour maintenir notre conscience en parfait état. Premièrement, et c'est très simple, gardez bonne conscience. C'est très simple. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est de garder bonne conscience. La première façon est de tenir bon. Vous souvenez-vous de ce qu'Ève a dit à Satan? Et Dieu dit. N'est-ce pas? Premier chapitre de Timothée, premier chapitre de Timothée, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont fait de la musculation savent que ce qui crée la force musculaire, c'est la résistance, le fait de rester parfois dans une position pendant une longue période de temps, et cela développe une grande force. Combien d'entre vous aiment se coucher chaque soir avec une conscience intacte, claire et nette? Pas de nuit blanche. C'est ce que Dieu veut aussi. 1 Timothée, chapitre 1. Verset 5. La fin, le telos, le but, l'objectif du commandement est l'amour. J'aime la manière exquise dont Dieu communique la vérité à partir d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Paul dit ici à Timothée que le but, l'objectif, la finalité du commandement de Dieu est l'amour. Cela va de soi. Dieu est amour. Mais il ajoute que l'amour procède de trois choses. De quoi? D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi véritable. Donc, Si vous voulez que l'amour de Dieu coule dans votre vie ou à travers votre vie vers les autres, eh bien, vous avez besoin de quelque chose pour renforcer et protéger non seulement un cœur pur et une vraie foi, mais aussi votre bonne conscience. Ce sont donc les mêmes commandements. Si le but des commandements est l'amour, les mêmes commandements vont soutenir nos efforts pour renforcer notre conscience afin que l'amour de Dieu puisse y circuler. C'est très simple. Donc, si vous voulez garder une bonne conscience, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu, à ses commandements. Job 27. Allez voir Job. Voyez ce qu'il a à dire à ce sujet. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Job 27, verset 6. Ma justice. Bien sûr que non. Job ne dit pas qu'il est lui-même juste. Mais nous connaissons de nombreuses écritures qui nous disent que la justice de Dieu, ce sont ses commandements. Vos commandements sont la justice. Ta parole est justice. Et voici ce qu'il dit à ce sujet. Je tiens bon et je ne l'abandonne pas. En d'autres termes, ce que Dieu m'a donné en termes de justice, ma justice, la connaissance que j'ai, je vais m'y accrocher. Et voici ce qu'il dit lorsqu'il s'y accroche. Afin que mon cœur ne me reproche rien tant que je vivrai. Il savait ce que la conscience peut faire, emportant la culpabilité. Il va donc s'attacher à la justice de Dieu, c'est-à-dire à ses commandements, à ses lois, à ses statuts, à ses jugements, afin de ne pas avoir à faire face à une conscience coupable. Alors, mes frères, tenez la parole de Dieu à deux mains, parce que si vous ne la tenez que d'une main, cela vous laisse une main libre pour quoi faire? Tendre la main et attraper quelque chose que vous ne devriez peut-être pas attraper dans la vie. Tenez avec les deux mains. Pouvez-vous imaginer essayer de faire un développé couché, je ne sais pas, choisissez un chiffre, 150 livres avec une seule main, à quoi cela ressemblerait-il? Je ne voudrais pas rester debout. Je ne veux pas être votre observateur si vous essayez de faire cela. Cela pourrait être filmé et devenir viral, mais vous avez besoin des deux mains sur la barre, surtout si vous poussez à un niveau que vous ne faites pas habituellement. Il en va de même pour la parole de Dieu. Tant que nous vivons, chaque jour et chaque nuit, si vous tenez des deux mains, le cœur à la parole de Dieu, votre conscience vous excusera. Elle ne vous accusera pas. Et c'est notre but, de garder notre conscience à l'arrière-plan. Proverbe 4. Proverbe 4. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Parlez de votre vie professionnelle, de votre vie normale, de ce que vous faites. Vous êtes peut-être étudiant, peut-être retraité, peu importe ce que vous faites. Peut-être êtes-vous étudiant, peut-être êtes-vous retraité, quoi qu'il en soit. Voici ce que dit Proverbe 4, 12. Quand tu vas. En d'autres termes, quand tu sortiras pour la journée, quand tu feras ce que tu as à faire, tes pas ne seront pas droits. En d'autres termes, personne n'aura à vous corriger. Vous continuez votre journée. Tout se passe bien. Et même lorsque vous courez, c'est-à-dire lorsque vous êtes occupé, que vous vous précipitez, que vous prenez des décisions rapides et que vous essayez de faire les choses pour les faire, vous ne trébuchez pas. Pourquoi? Verset 13. Saisissez l'instruction à bras le corps. Commencez votre journée par la parole de Dieu. Si vous avez besoin d'un conseil, votre ministre vous le donne, écoutez-le. Des conseils de Dieu de la part de frères qui écoutent sur une circonstance, et vous leur demandez des conseils, et ils vous prodiguent des conseils de Dieu. Faites-le. Si votre patron ou un être cher qui n'est pas dans l'Église vous prodigue un bon conseil, prenez-le et appliquez-le. Il est dit ici, en continuant la lecture, ne les laissez pas partir. Ne les laisse pas partir. Gardez-la, car elle est votre vie. Je ne saurais vous dire combien de fois l'expression « tenir ferme » est utilisée dans la Bible, mais c'est ainsi que nous gardons une bonne conscience. J'aurais pu lire n'importe lequel des textes suivants, si vous voulez les noter rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 21. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pourquoi? Si vous nourrissez bien votre esprit, il produira ou conservera une bonne conscience. 2 Thessaloniciens 2, 15. Frères et sœurs, restez fermes et retenez les traditions, pas seulement la parole, mais les traditions qui vous ont été enseignées par la parole, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous avez appris dans notre épître. 2 Timothée 1, 13. Retenez les paroles saines. C'est le 2 Timothée 1, 13. Apocalypse 2, 25. Mais ce que vous avez déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. J'ai été surpris par le nombre de fois où j'ai entendu ce terme, mais j'ai été surpris par le nombre de fois où on le trouve dans la Bible. Apocalypse 3, 11. Voici, je viens bientôt. Tiens fermement à ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Repensez au jardin et demandez-vous ce qui se serait passé si Adam et Ève s'étaient contentés de suivre les instructions que Dieu leur avait données. Nous pouvons nous interroger sur cette question, sur la réponse, mais nous devrions plutôt nous interroger sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Que se passerait-il si nous nous en tenions aux instructions de Dieu? C'est la question que nous devrions poser. Si nous nous en tenons aux bonnes choses que nous avons prouvées, si nous nous en tenons aux traditions qui nous ont été enseignées, qui nous ont été montrées par l'exemple, par la parole, au message, à ce que nous lisons dans les documents de l'Église, à ce que l'apôtre de Dieu nous enseigne, parce que la vérité vient à l'Église par l'intermédiaire de l'apôtre. Si nous tenons fermement à toutes ces choses jusqu'à ce que Christ vienne, nous garderons notre bonne conscience et nos couronnes en sécurité. C'est une façon de garder notre bonne conscience, en tenant bon. Mais que se passe-t-il si nous dérapons? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais dérapé? Quelqu'un. Quelqu'un. Ce n'est pas si, c'est quand. La deuxième façon, c'est qu'il y a des occasions où nous devons simplement, mes frères, faire le ménage. Nettoyer. Nettoyer la conscience et il y a une façon de le faire. Genèse, chapitre 3. Rappelez-vous, Dieu a conçu notre conscience pour nous mettre en accusation lorsque nous avons tort et pour nous guider. Nous passons au chapitre 3 et au verset 11 de la Genèse. C'est maintenant Dieu qui s'adresse à Adam. Il lui pose une question précise. As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Et voici ce qu'il dit. L'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec toi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Il a en quelque sorte superposé un tas de choses avant d'arriver à la vraie réponse, n'est-ce pas? Et le Seigneur Dieu demanda à la femme. Il n'est pas dit qu'il y a eu un laps de temps et qu'Adam a fait, waouh, waouh. Il est passé à autre chose. Je m'en suis tiré avec celle-là, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait? Et elle a dit, le serpent m'a séduite. Vous savez comment j'appelle cela? Suivre la culpabilité qui rebondit, la suivre parce que nous ne sommes pas conçus pour garder la culpabilité, alors nous trouvons un moyen de nous en débarrasser. Permettez-moi de commencer en soulignant ce que nous ne devrions pas faire. Ne soyons pas si prompts à culpabiliser les autres, surtout s'il s'agit de notre propre culpabilité. Oui, nous voulons avoir la conscience tranquille, nous voulons dormir la nuit, nous voulons être en paix avec nous-mêmes, Dieu aussi, mais la façon dont nous y parvenons, La façon dont nous essayons d'y parvenir peut être aussi mauvaise que l'erreur que nous avons commise en premier lieu. Lorsque nous essayons de rejeter la faute sur autrui. Attendez, avec quelle rapidité Adam a jeté sa nouvelle épouse sous le bus, 1. La Bible dit, il a vécu 930 ans. Maintenant, je peux l'entendre. Tu te souviens d'Adam? 900. Il n'est pas dit combien de temps Ève a vécu, mais laissez-moi vous dire que ne pas vivre cela pendant son temps serait une longue période. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire cela. Pire encore, le verset se lit comme si Adam s'en prenait subtilement à Dieu, peut-être de manière passive-agressive, il lançait aussi une accusation à Dieu. Lorsque nous faisons cela, c'est un indicateur fort que soit j'ignore ma conscience, soit ma conscience est complètement déréglée, et nous ne pouvons pas avoir cela. Alors que faire si notre conscience nous dit que nous nous trompons? Oh, nous devrions faire ce que les Corinthiens ont fait dans un récit familier. Allons au chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Attribuer le blâme aux autres. Cela n'a aucun sens de toute façon. Deuxième Corinthiens, chapitre 7. J'ai une idée. Je me sens coupable, alors je vais prendre ma poubelle et la jeter dans votre réceptacle, mais le problème, c'est que vous êtes probablement en train de gérer votre propre culpabilité et des situations dans votre vie, et vous essayez peut-être de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et donc, au lieu de s'en débarrasser et de l'éliminer complètement, on se contente de suivre la culpabilité rebondissante. C'est pourquoi la société ne peut pas s'entendre. Nous sommes tellement occupés à nous blâmer les uns les autres, la gauche blâmant la droite. Les républicains, les démocrates, les républicains, les libéraux, les conservateurs. Tout le monde blâme tout le monde, mais personne ne prend ses responsabilités. Deuxième épître aux Corinthiens, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Paul a abordé beaucoup de choses dans la première lettre aux Corinthiens, en particulier au sujet de l'homme qui couchait avec sa belle-mère, la femme de son père, et il les a frappés assez durement au verset 8, car si je vous ai fait de la peine paragraphe une lettre. En d'autres termes, Paul a piqué leur conscience avec la première lettre. Je ne me repens pas. Je ne regrette rien. Bien que je me sois repenti. En d'autres termes, je me suis demandé si je n'avais pas été trop dur avec toi. Car j'ai perçu que la même épître t'a fait regretter. C'est intéressant. Bien que ce ne soit que pour un temps. Voilà, mes frères, un bel exemple de ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Ne pas laisser la culpabilité ou le chagrin s'attarder plus que nécessaire, juste assez pour faire ce qu'il faut. Maintenant, je me réjouis. Il est dit au verset 9. Non pas que vous ayez été désolé. D'accord. Non pas que je vous ai fait de la peine avec mon épître. Mais que vous vous êtes attristé jusqu'à la repentance. Car vous avez été désolé d'une manière pieuse. Verset 10. Car la tristesse de Dieu produit la repentance à salut. Voilà. Frères et sœurs, la deuxième façon de garder une bonne conscience est la tristesse pieuse lorsque nous nous trompons et la repentance. La lettre de Paul était destinée à stimuler, et non à être leur conscience. Son travail consistait à piquer leur conscience, en espérant qu'ils réagiraient de manière pieuse. Regardez le ministère en commençant par M. Pack. C'est ce que nous faisons quand nous prêchons, quand nous exhortons, quand nous enseignons, quand nous conseillons, quand nous corrigeons, quand nous instruisons. Il s'agit, du moins en partie, de conditionner nos consciences pour qu'elles fonctionnent comme Dieu veut qu'elles fonctionnent, pour qu'elles vous accusent lorsqu'il est nécessaire de vous accuser et qu'elles vous excusent lorsqu'il est temps de vous excuser. Vous avez bien fait, vous avez mal fait. Si tu as mal agi, sois triste et repens-toi. Si tu le fais bien, tu es bon. Mais qu'en est-il des zones grises? Vous vous souvenez que nous en avons parlé? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ces zones grises, vous vous souvenez? Et au verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Voilà, c'est noir et blanc. Cela rendait mon appel et mes décisions concernant les doctrines fondamentales de Dieu, sa loi, très simples. Je n'avais pas besoin de ma conscience dans ces cas-là. Mais ensuite, Christ ajoute ce verset 20. Il ajoute, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Respecter la loi de Dieu n'exige pas beaucoup de notre conscience. Aller au-delà de la lettre de la loi, oui. L'approfondir, oui. Nous pouvons à nouveau nous poser des questions. Nous avons besoin de plus qu'un simple entraînement à la force scripturale pour les moments où la vie n'est pas aussi noire et blanche, aussi tranchée et sèche. Souvenez-vous de ces cas. Que dois-je faire en ce jour de sabbat? Devrais-je manger telle ou telle cochonnerie ou telle quantité de nourriture? Autant de questions avec lesquelles nous nous débattons, mes frères. Au verset 21 ici, si vous le regardez, il nous lance encore plus de défis. Nos consciences ont besoin d'être formées à cela, au meurtre, à l'adultère, au serment, à la vengeance, à la demande de faire un kilomètre. Aimer son prochain et haïr son ennemi. Pas de problème, je peux faire tout cela. C'est la colère envers autrui sans raison valable. C'est une question difficile. J'ai besoin de ma conscience pour m'assurer que je suis bon à cet égard. Convoiter une personne dans mon cœur. C'est plus difficile. Tenir ma parole quand je dis oui. Je suis reconnaissant d'avoir une conscience, et une bonne conscience en plus. Faire 1 ou 2 kilomètres de plus. M'être demandé comment je me sens ce jour-là, ou ma conscience va-t-elle prendre le pas sur ce que je ressens ce jour-là? Aimer son prochain et haïr son ennemi. Attendez, 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 attendez. C'est facile. Aimer mes ennemis. Bénir ceux qui me maudissent, faire du bien à ceux qui me haïssent et prier pour ceux qui me maltraitent. Eh bien, je vais avoir besoin de ma conscience sur ce point parce que, oh, je ne peux pas oublier qu'il est dit que toutes ces choses sont nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Voici donc quelques exercices supplémentaires à faire tous les jours. Nous les appelons les redressements assis, les sauts de puce. Les pompes que nous devrions faire tous les jours. Je n'entrerai pas dans tous les scénarios possibles pour lesquels nous nous heurtons à ces zones grises, mais ces exercices sont primordiaux. Si vous adhérez à ces principes, mes frères, vous êtes sur la bonne voie pour entraîner et conditionner votre conscience afin qu'elle ne tourne pas au ralenti et qu'elle reste en alerte pour que nous puissions arriver dans le royaume. Jean 14. Jean 14. Ces exercices vont préparer notre conscience comme les premiers intervenants. Lorsqu'ils sont appelés, ils sortent et font ce pour quoi ils ont été formés. Ensuite, ils retournent à la station et continuent à tourner au ralenti jusqu'à ce qu'on ait à nouveau besoin d'eux. Combien de fois voulez-vous que les pompiers sortent de leur caserne? Jamais, si possible. Combien de fois voulez-vous que l'ambulancier prenne sa voiture et se rende au domicile de quelqu'un en cas d'urgence médicale? Jamais. Si nous pouvons garder notre conscience à l'arrière du terrain, dans la caserne, en tournant au ralenti, c'est une bonne chose. Le verset 17, le voici, le premier exercice, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Le premier exercice quotidien, le conditionnement de force que nous devrions nous donner à nous-mêmes, à nos consciences chaque jour, c'est de nous assurer que l'Esprit de Dieu est notre observateur. Assurez-vous que l'Esprit de Dieu est votre observateur, votre entraîneur personnel. N'essayez pas d'affronter les zones grises de la vie par vos propres forces. Permettez-moi de dire ici que si la conscience humaine est la plus grande caractéristique qui distingue l'homme des animaux, l'Esprit de Dieu est la plus grande caractéristique qui distingue un chrétien de tous les êtres humains de la planète. C'est l'élément le plus vital pour naviguer dans les zones grises de notre marche chrétienne. Revenons donc à l'Esprit de Dieu qui est notre observateur. Ceux d'entre vous qui ont déjà soulevé des poids savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un observateur? D'accord, c'est bien. L'haltérophilie nécessite des observateurs. Le repérage, laissez-moi lire la définition ici. Le spotting en haltérophilie ou en entraînement de résistance, et je vais y ajouter des éléments spirituels, mais c'est la définition tirée d'Internet, et l'Esprit de Dieu, qui nous soutient au cours d'un exercice particulier, d'une situation, d'une expérience de vie que nous vivons et qui va probablement au-delà de nos capacités. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous vous êtes dit, « Je ne sais pas comment je vais gérer cela, comment je vais traverser cette situation ?» Le fait que Dieu nous repère par son esprit met l'accent sur ce que fait un bon repéreur. Il nous permet de soulever ou de pousser plus que ce que nous pouvons normalement faire par nous-mêmes. C'est le rôle d'un repéreur. Si je suis seul dans la salle de musculation et que j'essaie de soulever des poids lourds, je n'arriverai pas à atteindre mon maximum si je suis seul, mais si j'ai un accompagnateur fiable, je donnerai le meilleur de moi-même. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, c'est exactement ce que nous avons, frères, dans les situations. Avez-vous déjà dit que je n'aurais jamais pu le faire sans l'aide de Dieu? Avez-vous déjà dit cela dans votre vie? Pensez-y. Je n'aurais jamais pu surmonter cette situation sans l'aide de Dieu. Et, frère, je dirais que c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide et vous aide, comme le font les bons observateurs, parce que Dieu sait quand intervenir et nous aider à aller au-delà de ce que nous n'aurions normalement pas tenté dans notre propre vie. Cela nous amène au niveau suivant, aux aspects les plus profonds de la vie d'un chrétien. Ce message ne traite pas de l'exercice de l'Esprit de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous préparer de manière adéquate et participer à un christianisme de classe mondiale si l'Esprit de Dieu n'est pas notre entraîneur personnel ou notre observateur qui nous aide dans toutes les circonstances. Deuxièmement, consciemment. J'ai utilisé le mot « conscient ». Consciemment, les comités s'engagent chaque jour à dire la vérité et à ne pas mentir. C'est un exercice global que vous faites, vous enseignez à votre conscience que je suis attaché à la vérité et que je suis totalement opposé au mensonge. Et si vous conditionnez votre conscience de cette manière, elle va dire, « Oh, vous m'avez dit cela, si je peux m'exprimer ainsi. » Vous m'avez dit que vous étiez attaché à la vérité, alors quand les alarmes se déclenchent, quand je sens que vous êtes sur le point de dire un mensonge et que je déclenche les alarmes, c'est parce que vous vous êtes attaché à la vérité et que vous vous êtes engagé à ne pas mentir. Romains chapitre 9. Romains, chapitre 9. Des exercices très simples, mes frères. Nous allons voir que l'apôtre Paul révèle le lien important qui existe entre la vérité, notre conscience et l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi celui-ci comme deuxième exercice, parce qu'il s'inscrit dans le prolongement du premier. Verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Voilà. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'aimerais que vous notiez Jean 8, 32, parce que je veux faire le lien avec cela. Christ a dit à ses disciples dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si l'on part de ce principe, si l'on s'engage consciemment à ne pas mentir, « Je ne veux pas mentir », et que l'on s'engage à être sincère, « Je veux être vrai, je veux être sincère dans tout ce que je fais », notre conscience sera entraînée de manière adéquate à intervenir et à nous accuser lorsque le moment se présentera avant que nous ne disions un mensonge. Et vous savez ce que cela fait? Cela libère notre conscience, qui peut retourner à son poste. Chaque fois que je dis la vérité, je n'ai pas besoin de ma conscience. Chaque fois que je dis un mensonge, les portes s'ouvrent. Les sirènes retentissent et ils courent pour me sauver de moi-même. Mais si nous nous engageons dans la vérité et que nous nous y tenons, frères, notre conscience restera au ralenti. Troisièmement, faites du bon travail, pas du parfait. Veillez à écrire les deux. Faites le bien, pas la perfection. Jacques, chapitre 4. Comment conditionnons-nous notre conscience? Comment pouvons-nous l'entraîner? Comment pouvons-nous la renforcer pour qu'elle nous aide dans les zones d'ombre de la vie? Il faut encore une fois élargir les applications. Si nous les appliquons, peu importe les circonstances spécifiques, si nous utilisons le Saint-Esprit comme notre observateur, si vous voulez, nous faisons le bien, mais pas parfaitement, comme le dit Jacques 4, verset 1, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'est un principe très simple et direct. Exercez notre conscience pour qu'elle nous avertisse qu'il est mauvais de violer ce verset. En d'autres termes, méditez ce verset fréquemment. Il n'y a rien de pire, en particulier dans l'Église de Dieu, que l'inaction ou le manque de participation lorsque l'action et la participation sont nécessaires. Permettez-moi de le répéter. Il n'y a probablement rien de pire que l'inaction et le manque de participation lorsque l'action et la participation sont nécessaires ou requises. Nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs. Nous sommes appelés à faire le bien, un point c'est tout. S'il s'agit d'aider, tant mieux. Permettez à votre conscience de crier par-dessus n'importe quelle excuse parce que nous sommes doués pour cela. J'aimerais aller à cet événement, mais j'ai ceci, cela, ceci et cela. J'aimerais sortir avec les autres qui sortent, mais vous pouvez trouver plein d'excuses pour cela. Oh, je vais arriver à l'office juste avant qu'il ne commence parce que je suis très occupé, ceci, cela, cela. Nous trouvons toutes sortes d'excuses. Le bénévolat. Aider à la fête. Pensez à toutes les choses que nous faisons. Pensez au travail. Peut-être trouvez-vous des déchets sur le sol. Vous pensez que votre appel a besoin d'aide dans une situation particulière. J'étais dans le parking de Lowe's. J'étais avec ma fille aînée. C'est juste un exemple. Ce n'est pas pour me féliciter. Je sors. Nous sommes occupés. Je ne me souviens plus où nous allions. Il y avait une femme qui portait un chariot. J'ai remarqué qu'elle avait de lourds sacs de sable, de béton ou autre dans son chariot et qu'elle tenait par la main un enfant de 4 ans. Les parkings sont équipés d'une grille et ils s'écoulent tous. Elle est sur une pente et pousse son chariot avec son enfant. Elle est contre la voiture, essayant de pousser le chariot avec ses hanches pour le maintenir contre la voiture afin de ne pas perdre son enfant qui s'enfuit dans l'engin. Avant même de l'atteindre, je me suis dit, je pense que je devrais l'aider. Peut-être que je ne devrais pas. Je ne sais pas. Elle dira probablement qu'elle va bien. Elle se débrouillera probablement très bien. Elle l'a fait pour se lancer un défi. Je ne veux pas l'insulter. Va-t-elle dire, quoi? Tu penses que je suis faible? Je me trouve des excuses. Cela se passe en quelques millisecondes. Je pousse mon chariot ou je sors avec mon sac et je me dis « Oh !» Je me dis « Mais si je ne le fais pas, que je monte dans cette voiture et que je descends la route 18, je vais y penser tout le temps. » Ma conscience me mettait déjà en garde. « Oh, tu vas être malheureux en rentrant chez toi. » J'ai donc dit « Madame, puis-je vous aider ?» Elle m'a répondu « Oh, non, merci. » Je lui dis « Vraiment, j'ai remarqué les deux sacs et vous avez votre enfant dans la main. » Elle me répond « Eh bien, merci. » J'aurais pu m'en aller à ce moment-là, alors j'ai pris les sacs, je les ai mis dans le véhicule pour elle et nous sommes partis. La conscience est restée au poste. Il en était heureux. C'est le genre de circonstances de la vie. Faire le bien est ce que nous sommes appelés à faire. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. C'est un péché, mes frères. Pensez-y dans tous les domaines. Rappelez-vous que je n'ai pas dit « parfait », d'accord ? Alors que nous commençons à conclure. Il y a ceux qui n'ont aucun problème à faire le bien. Ils sont les meilleurs, ils font le bien tout le temps. Ce sont les meilleurs, ils font le bien tout le temps. Je veux dire, je reste bouche bée. Mais il y a aussi ceux qui ne se contentent pas de faire le bien, mais qui veulent être parfaits dans tout ce qu'ils font. Ce sont des perfectionnistes. Il m'arrive de tomber dans ce travers. Et ceux qui s'efforcent d'être toujours personnellement parfaits en tout, ils ou elles, et cela m'inclut, n'y parviennent pas. Je me répète encore et encore dans ma tête, encore et encore, encore et encore. Et je ne peux pas faire cela. Il faut en tirer les leçons et aller de l'avant, car il y a encore du bon à faire. Nous n'avons pas été parfaits, alors passons à autre chose. Philippiens, chapitre 4, verset 5. Minute pour rester, les deux derniers versets ici. Tous les athlètes de classe mondiale connaissent l'importance du repos. Le principe suivant permettra également à notre conscience de se reposer correctement. Encore une fois, nous voulons qu'il tourne au ralenti dans la station, mais en même temps, cela prépare, le même verset a un double effet. Il le prépare à déclencher des alarmes si nous n'appliquons pas ce même principe. Le cinquième verset, vous ne l'avez peut-être jamais vu sous cet angle. Que votre modération soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Vous savez, c'est l'un des versets les plus puissants qui devrait bientôt piquer notre conscience. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je bois trop? Est-ce que je mange trop? Est-ce que je reste trop tard? Est-ce que je dépasse les bornes en ce qui concerne la façon dont je respecte le sabbat? Si je dépense trop d'argent pour ce genre de choses? Faites connaître votre modération dans tout ce que vous faites. C'est le quatrième exercice. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour garder votre, si vous restez dans la modération, votre conscience se reposera. Cela vous évitera d'avoir à dépenser 900 $ pour ce nouveau téléphone dont vous n'avez absolument pas besoin. Et probablement plus les intérêts que vous payez parce que vous avez dû l'acheter avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Pour revenir au point précédent, la modération nous empêche de nous arrêter toutes les 5 minutes pour tout le monde et d'essayer d'être absolument parfait à chaque fois que nous avons des choses à faire. On peut parfois être trop bon. Il faut simplement faire ce que l'on a à faire. Et parfois, le non est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Le dernier point, toujours. Toujours inclure ce qui suit dans votre entraînement de force, quotidien lorsque vous exercez votre bonne conscience. Avant de monter sur le ring, pratiquez chaque jour ce que je vais partager avec vous. Entre les rounds, lorsque vous êtes assis au calme dans votre bureau ou ailleurs, vous êtes au pied du ring et vous avez des pensées. Vous êtes là, assis avec vos pensées et vous êtes sur le point d'engager la personne suivante ou quoi que ce soit d'autre. Et à la fin de la journée, après le match, quand vous allez vous coucher, vous devez appliquer cet exercice. C'est quelque chose de continu. Et c'est juste ici, au verset 8. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'éloge. S'il y a quelque vertu, s'il y a quelque louange, pensez à ces choses-là. Il précise ensuite de quelles choses il s'agit. Ces choses que vous avez apprises l'un et l'autre. Prenons, par exemple, le message d'aujourd'hui. Et reçu, entendu et vu en moi. Tout ce que nous absorbons, frères, est un terrain d'entraînement. Nous sommes dans un centre d'entraînement constant, où que nous soyons. Où que nous soyons, c'est un centre d'entraînement pour former nos consciences à fonctionner exactement comme Dieu l'a voulu, à nous accuser quand nous désobéissons et à nous excuser quand nous obéissons, quand nous faisons les bonnes choses. Et le Dieu de la paix, dit-il, ne se contente pas de penser aux choses, il les fait, il les fait. Je ne sais pas si cela vous a déjà échappé. Faites-les. Faites tout ce qui est énuméré ici. Tout ce qui est vertueux, charmant, de bonne réputation, la louange, et le Dieu de paix sera avec vous. Frères et sœurs, quelle sorte de conscience avez-vous? Vous en avez une bonne. Dans quel état se trouve votre conscience? J'espère qu'elle est forte et qu'elle se renforce chaque jour en suivant ses conseils d'entraînement et en effectuant ses exercices.